Fabrice, et nous sommes vraiment heureux, et nous tenions à le faire, de terminer cette semaine de réflexion et de dialogue autour de Valère Novarina par l'intervention de Céline Hersan. Parce que Céline Hersan est la meilleure connaisseuse de l'œuvre de Novarina.
Oui.
Je vais devenir aussi rouge que Léopold.
Chiche, chiche. Et avec l'intervention de Céline Hersan, nous terminons par les soubassements de l'œuvre. En tout cas, elle a travaillé sur ces soubassements-là. Et quiconque s'aventure dans le champ novarinien ne peut faire l'économie du travail énorme de cartographie qu'a exécuté Céline Hersan. Céline Hersan est, d'autre part, l'admirable conservateur en chef. On dit comme ça, conservateur en chef ?
Je n'ai pas ce titre.
Mais c'est ce que tu fais. Conservateur en chef de la bibliothèque Gaston Batty à Paris 3, qui est le trésor le temple de la mémoire du théâtre à Paris et qui rivalise avec la BNF d'ailleurs. Donc c'est Céline Hersan qui a entrepris de rebâtir ce temple, qui en avait grand besoin. Et d'autre part, elle a donc publié en 2016 le fruit de la condensation de son travail aux éditions Classiques Garnier, l'atelier de Valère Novarina, recyclage et fabrique continue du texte. Alors je te donne la parole, Céline, et je te remercie beaucoup de terminer ce colloque.
Merci. Pardon. Vous m'entendez bien ou ça va? Oui. J'ai la posture difficile de la cerise sur le gâteau, c'est pas toujours très évident. Et donc j'ai intitulé ma communication « Espace, es-tu là ?». Je voudrais tout de suite rassurer les incrédules dans la salle, je ne ferai pas tourner les tables ce matin. Mais je vais vous inviter à parcourir avec moi, à l'aune de cette imprécation « Espace, es-tu là ?», les territoires novariniens. Alors, « Espace, es-tu là ?», cette question est posée dans « La chair de l'homme ». Et selon moi, elle met en doute les fondements mêmes de l'acte théâtral. Où sommes-nous et quel est notre contenant? Appeler l'espace pour lui donner une présence et une consistance, nommer les choses, nommer les choses pour les faire apparaître, sont une façon, selon moi, de dire la fabrique de l'événement théâtral. Ça revient en gros à donner un corps, à donner un contexte, une assise temporelle à un lieu qui n'est par définition qu'une abstraction. Si le théâtre est en attente d'être peuplé, habité, investi et parcouru, s'il ne peut advenir qu'une fois ses limites établies, c'est qu'il est d'abord une absence, ou comme le dit très joliment Valère, un désespace. Alors, comment réinventer dans l'écriture et sur le plateau, d'ailleurs, l'une des composantes essentielles de l'événement théâtral, l'espace. L'espace n'est pas là, je dois donc le penser depuis mon corps et le faire exister en prononçant et en répétant son nom. Je dois dire plancher pour que le sol apparaisse sous mes pieds. Je dois dire plafond pour que les cintres apparaissent. Je dois dire mur pour que la scène soit pendrillonnée. Et surtout, pour que le plancher, le plafond, les murs restent, je dois les couvrir de peinture pour leur donner une présence. Alors, comment l'espace se raconte-t-il et se montre-t-il dans l'écriture de Valère? Comment ce théâtre, que Valère qualifie parfois volontiers de théâtre utopique, sans lieu, utilise néanmoins les signes du réel pour construire une fiction autour de l'espace, voire faire de l'espace le sujet même de l'écriture. Alors, voilà, pour moi, c'est ça mon problème chez Valère. Y suis-je ou n'y suis-je pas? Ce signe m'a toujours fascinée. Vous savez, quand on se perd dans les grandes villes, il y a toujours on vous rappelle que votre position de sujet dans l'espace se réduit à ce signe. Je ne sais pas si ça produit un effet de fascination pour moi. Tu n'es jamais où tu crois être. Oui, voilà, c'est ça. Je m'interroge toujours à savoir si je suis au centre de ce cercle où on me désigne ou si je suis à côté. Où sont le centre et la périphérie, finalement? Donc, toute la difficulté, aussi bien dans l'espace réel que dans le théâtre de Valère, c'est de se situer dans un espace textuel, un espace géographique aussi, cartographique. Alors, l'absence d'espace bouscule le caractère certain de nos codes référentiels, puisque le monde novarien n'est pas organisé selon les valeurs traditionnelles qui sont rassurantes pour nous au quotidien. Et, l'espace chez Valère est plutôt organisé dans une syntaxe cognitive assez instable, opérant par le jeu de la division et de la combinatoire. Alors, l'extrait a déjà été cité dans de précédentes interventions, mais je vais quand même le relire, parce que pour moi, ça a été vraiment mon entrée dans le théâtre de Valère, par la lecture. J'ai rien compris et je me suis dit, je vais faire une maîtrise. J'ai toujours pas compris, j'ai fait un DEA, j'ai toujours pas compris, j'en ai fait une thèse. Enfin voilà, pour moi, c'est un morceau fondateur. Et puis, dans mon expérience de l'espace, c'est quelque chose de très important. L'extérieur est à l'extérieur de l'extérieur. L'intérieur n'est à l'extérieur de rien. L'intérieur est à l'extérieur de l'intérieur. L'extérieur n'est pas à l'intérieur de lui. L'intérieur n'est pas à l'intérieur de l'extérieur. L'intérieur n'est pas à l'extérieur de l'extérieur. L'intérieur n'est pas à l'intérieur de rien. L'intérieur est à l'intérieur de lui. L'extérieur n'est pas à l'intérieur de rien. Je ne cite pas tout. Il y en a 111, je crois, Valère. Non, c'est ça je ne me souviens plus. Alors, vous voyez, c'est l'ouverture de Vous qui habitez le temps, qui a été écrit ou publié en 89. Donc, vous voyez, l'absence d'espace, hein, finalement, produit assez paradoxalement des cellules spatiales excédentaires, voilà, avec de l'inventaire, comme s'il fallait toujours surenchérir pour combler le manque d'espace. Et cet extrait que je vous ai lu très rapidement montre aussi comment la parole, par le jeu du cut-up, hein, donc l'assemblage combinatoire intérieur, extérieur, lui, rien, moi, l'autre, produit par accumulation, répétition et variation du temps, de l'espace. Ce matériau-là, par le jeu du cut-up, est cependant déconnectant du réel, puisque ce jeu entre l'intérieur et l'extérieur ne fait que faire balbutier l'espace, il ne le fait pas vraiment apparaître. Il crée du faux continu. Et ces débordements produisent des volutes métaphysiques, mais ne constituent pas pour autant des repères viables. Pour m'orienter, pour exister dans l'espace, je dois fixer un point, sans quoi je suis absorbée, je disparais dans le paysage ou dans le cosmos qui me contient. Si une réalité topologique ne se dit pas nécessairement sous des effusions descriptives, c'est surtout vrai au théâtre, elle peut en revanche s'enrouler autour d'un détail tel que la nomination d'un lieu. Il y a Barthes avait très justement pointé chez Flaubert dans Un cœur simple, que le détail n'est pas inutile ou superflu, mais qu'il est au contraire fonctionnel et stratégique. Et je sais pas, c'est une chose qui a été assez peu remarquée, je crois, dans les commentaires autour de l'œuvre de Valère. C'est autour du lieu, autour d'un point dans l'espace, donc, que la fiction théâtrale novarinienne devient dispositif. Parce que le pouvoir référentiel du signe toponymique est en effet tel qu'il peut tirer le réel sur le plateau de l'écriture et sur le plateau scénique. Proust parlait beaucoup de son amour des noms de pays, et je pense qu'il y a un petit peu la même fascination chez Valère, pour la capacité d'un lieu à contenir un paysage. Enfin, là, on en a tous fait l'expérience ensemble cette semaine. Si je dis « cerisy », ça fait apparaître le château, ça fait apparaître Edith, ça fait apparaître la cloche. Donc, dans Cerisy, voilà, vous les mettez dans l'ordre de votre choix. Mais vous voyez que le Cerisy, pour nous, est devenu maintenant un mot magique, un mot Cerisy contenant. Cerisy la cloche. Cerisy la cloche. Donc, le toponyme a une formidable capacité référentielle à contenir un paysage tout entier et du souvenir personnel, le souvenir d'une rencontre aussi, par exemple. Parce qu'à mon avis, il y a bien chez Valère, enfin Patrick Sutter a fait un très bel exposé dessus, il y a des zones paysagées dans l'écriture de Valère. Des villes traversées en voiture ou en vélo, des lieux historiques et sacrés qui apparaissent. Il y a de la marche aussi, de la marche dans la montagne, par exemple. Des chemins de traverse et des chemins de croix. Alors, la citation d'un toponyme fait immédiatement surgir le réel dans l'écriture, et il est aussi un raccourci très pratique au théâtre contre la description. Et il peut même être un substitut au décor. Il se suffit à lui-même pour être là. Je vais juste citer un rapide extrait d'une langue inconnue. Autour du lac et dans les proches montagnes, il n'y a pas de lieu où sur la page du paysage, notre langue soit aussi ouverte et comme un fruit offert. Variation vive des toponymes, ouverture du nuancier entier de notre langue. Écoutez cette géographie sonore, cette rhapsodie miroitante. Une langue écrit le paysage. Ripaille, taninge, abondance, lugrin, seigneux, avanche, etc., etc. Les noms de lieux agissent dans l'écriture de Novarina comme des enclencheurs de récits et font souvent office de support biographique. Ça a été déjà montré dans d'autres communications. Je peux citer par exemple, parce que Thérèse Joly est là, je ne sais pas où, voilà le col du feu par exemple, c'est pareil, et ça produit même des objets éditoriaux, cette fascination pour les lieux. Il y a plein de lieux magiques dans l'univers de Valère, la montagne, les jets, la Savoie, la colline de Thonon et puis la loterie Pierrot, par exemple. Tous ces lieux sont devenus des événements dramaturgiques à répéter, des signes autobiographiques autour duquel organiser une mémoire personnelle, des pôles spatiaux autour duquel déplier du langage, du temps et des actions, autour duquel organiser des réécritures et des adaptations. Alors, d'autres lieux historiques, qui sont eux aussi des points d'étape dans le parcours initiatique de Novarina, réapparaissent ponctuellement dans l'œuvre. Alors, je pense particulièrement à la basilique Sainte-Sophie de Constantinople, dont l'architecture revient très souvent dans ton œuvre. Cette architecture très particulière qui repose sur l'alliance très contradictoire de cercles, de carrés, de cubes et de sphères. Et finalement, ce lieu de Sainte-Sophie me paraît vraiment être devenu un modèle d'écriture pour composer la structure des pièces. C'est-à-dire construire de la parole ou produire du texte autour de tensions géométriques. Et des architectures verbales, finalement, qui deviennent des monuments linguistiques et qui reposent sur des proportions binaires ou ternaires, des figures géométriques sacrées qui donnent à la composition d'ensemble son équilibre et sa perspective. Dans les derniers textes publiés, une langue inconnue, paysage parlé, la quatrième personne du singulier, qui sont à mi-chemin entre l'essai et le journal de voyage, Valère raconte de façon très intime son rapport à certaines géographies balkaniques, on les a entendues au cours des diverses lectures, ou encore par exemple le voyage dans les Montis Sacri Monti, avec ce parcours dans les 45 chapelles de Varallo. Et on voit nettement comment ces récits organisent des structures légendaires et mythiques au sein de l'œuvre. Comment finalement l'espace se conquiert par le pèlerinage et par la marche. Et que finalement, j'aime beaucoup le titre d'une des dernières études que Michel Corvin a publiée sur Valère, qui s'appelle « Marchons ensemble, Novarina, Vade Mecum ». Il y a peut-être l'idée d'un théâtre portatif à emmener avec soi, qui permet de déplier de l'espace et du paysage chez Valère. Alors, si ces géographies-là, tirées avec des noms, des toponymes réels, ont un caractère d'évidence, parce qu'elles font appel à des toponymes qu'on connaît tous, il existe d'autres cartes à retrouver dans l'œuvre de Valère, et elles sont un petit peu plus compliquées à déceler parce qu'elles relèvent d'un geste cryptographique et architectural aussi. Alors, je vous propose de nous arrêter un petit instant sur le drame de la vie. Alors, cette pièce fait écho par son titre et par sa structure au drame de la vie de Rétif de la Bretonne, qui est une pièce maintenant complètement oubliée, une pièce très importante cependant du XVIIIe siècle, où Rétif de la Bretonne cherche à raconter la vie d'un homme tout entier. C'est une démarche très proche de Rousseau. C'est la première grande pièce autobiographique dans l'histoire du théâtre français. Et finalement, dans le drame de la vie de Valère, on retrouve voilà, cette visée globalisante, faire l'histoire de la vie. Dans le drame de la vie, on assiste à la naissance de l'homme de V. Et il y a tout un parcours aussi dans les lieux, puisque, tu m'arrêtes si je me trompe, Valère, la pièce est organisée aussi autour d'un vélodrome d'action, d'un stade d'action, avec un départ, une arrivée, un podium. Et je crois que c'est le modèle du Tour de France. C'est ça qui est un petit peu... Tout dans la lutte des morts, avec les 24 tableaux de la lutte des morts. Ouais. Mais voilà, il y a cette idée de stade. Enfin, l'écriture, elle est déjà ancrée dans des lieux circulaires aussi dans ces pièces. Et des constructions en tableaux. Donc, cette idée, voilà, par exemple, de Tour de France, dit que l'espace est aussi construit comme une suite de points de passage et de distances à parcourir, comme une matière, finalement, dont la continuité reste en devenir. Et si on regarde bien, finalement, le personnage novarien est toujours en mouvement dans l'espace. Je vais essayer... Alors, je ne suis pas très... pas une très bonne lectrice de théâtre, mais je vais essayer quand même. Un petit extrait de La chair de l'homme. L'ingénieur Lenoir, où as-tu habité avant d'avoir quitté ta joie ? L'ouvrier séraphique. Rue Grube, rue de la Fontaine au Pire, rue Jean-François Marchandot, rue Jean-François Blanqui. L'ingénieur Leblanc, quel numéro ? L'ouvrier séraphique. 36, 108, 19, 28, 50, 28 terre, 52, 50 bis, 37, 28, 28, 19, 28, 28. L'ingénieur Lenoir, où ? L'ouvrier séraphique. À Vieux-Gy, à Cergy, à Épône, à Paris 12, à Lyon 8, à Longjumeau, à Lagouste, Saint-Saxifirien. Très, j'ai réussi à le dire. Je ne pensais pas. Donc ces mentions, même si elles sortent d'un cadre logique spatial connu, embrayent sur du récit de vie. Et finalement, la lecture de l'espace dans le discours tient de l'espace cinématographique. C'est toujours un espace pris dans un mouvement, comme un travelling continu. Et finalement, tous ces microcosmes qui apparaissent dans l'œuvre génèrent des lieux-images. Alors, tous ces plaisirs de la nomination et de la thésaurisation autour des noms de lieux génèrent aussi au sein de l'œuvre des collections topologiques. Et finalement, en voulant inventorier le monde, Valère crée des paysages étymologiques qui manifestent un besoin de reconstituer arpent par arpent un territoire donné. Et ça peut être le cas pour des listes de toponymes savoyards, enfin on l'a vu aussi dans la loterie Pierrot avec Patrick hier, et à une échelle macroscopique, puisque j'ai cité La chair de l'homme, voilà, il existe un exemple stupéfiant qui est la rosace des rivières. Donc c'est une liste de 1708 toponymes qui m'a beaucoup posé problème quand je faisais ma thèse. Parce que j'entendais beaucoup, en fait, dans le commentaire... Je me permets de recycler un tout petit peu ma thèse aujourd'hui. C'est une liste qui m'avait beaucoup posé problème à l'époque. Je voyais partout dans l'exégèse novarinienne, c'est formidable, cette poésie sonore, ces assemblages de sonorités. Et du coup, je vais quand même vérifier les toponymes. Enfin, est-ce que c'est vraiment de la création littéraire, poétique ? Enfin, qu'est-ce que c'est que ces mots qui me chatouillent l'oreille ? Alors, je me suis dit, bon, comment faire pour démêler l'inventaire et la collection ? Donc, je me suis dit, le plus simple ou le plus compliqué, finalement, c'est d'essayer de réécrire l'inventaire. C'est-à-dire que dans mon travail, je n'ai jamais cherché à décomposer les choses, j'ai toujours cherché à les recomposer, à chercher voilà, la façon dont ça avait été, à reproduire en fait le geste d'écriture. Alors du coup, j'avais numéroté chaque nom de rivière, je les avais reclassés dans l'ordre alphabétique, et j'ai trouvé une carte de l'IGN, une carte des cours d'eau de France, et je me suis amusée, parce que c'était vraiment de l'ordre du jeu, à pointer sur la carte les 1708 noms de rivières. Ça m'a pris 3 semaines. Voilà, c'était une carte très grande qui faisait 2,50 m par 2,50 m. Enfin, j'ai vécu dans la carte dans mon appartement pendant 3 semaines. Et en fait, il s'est produit une chose assez étrange. Et voilà ce que ça a donné, en fait. En reliant les points, vous savez, comme les jeux d'images pour enfants, on a juste les points, il faut retracer. C'est pour ça que je vous disais, il y a des parcours, enfin, les choses se font avec des lignes dans l'espace aussi. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est vraiment curieux. Alors, en fait, cette poésie sonore dont on parle dans les collections et les inventaires, elle n'est pas construite par la sonorité, mais par une logique spatiale, enfin, en ce qui concerne la rosace des rivières. Et donc, cette collection de toponymes, elle est organisée de façon très précise. C'est-à-dire que la liste commence avec l'Isère, donc une rivière dans le nord de la France. Et puis, on descend progressivement, voilà, de haut en bas et toujours de la gauche vers la droite. Donc, en fait, cette collection, cette liste, elle opère un découpage de l'espace, elle opère un découpage du territoire. Et la petite chose amusante, hein, comme je vous disais, des indices autobiographiques sont cachés. La liste finit voilà, au bord de l'Oncion, qui est une rivière coulant à Thonon-les-Bains, donc la ville qui n'est pas la ville de l'origine, mais voilà, une ville une rivière souterraine. Ce qui tombe bien pour ces inventaires secrets, enfin ces cartes secrètes à retrouver. Donc on retourne à l'origine par la liste. Donc ça m'a beaucoup intéressée, en fait, de découvrir cette structure territoriale. Et je me suis dit que finalement, l'œuvre procédait finalement peut-être dans son ensemble de ce même type de stratification et de découpage du réel. Et là, on voit bien finalement avec cette carte que l'écriture de Valère propose des perspectives paysagées. Et qu'une typologie, une logique spatiale, qui ne se laisse vraiment pas deviner au premier abord, n'est jamais faite au hasard. La collection, elle est toujours organisée. Alors maintenant, je voudrais parler un petit peu de la question du périmètre. À l'heure où on augmente beaucoup la réalité scénique, hein, par la présence d'écrans sur le plateau, où l'on dit que notre temps est composé de filtres et d'interfaces, les propositions scéniques de Valère et de ses équipes, Philippe Marioge, Céline Schaeffer, construisent une dimension spectaculaire en interrogeant le pouvoir de représentation et d'abstraction des outils primitifs du théâtre, des corps et de la parole, propulsés dans un espace donné et dans le temps de la représentation. En exposant la fabrique de l'acte théâtral, en plaçant l'émergence du phénomène théâtral dans la fragilité de l'instant, Novarina renoue avec des valeurs esthétiques fondamentales. Le geste scriptural et pictural, qui font tenir l'œuvre aussi bien sur le papier que sur le plateau, organise un univers métaphysique et linguistique, fait d'inventions, d'inventaires, de citations et de paradoxes, mais aussi un univers plastique, fait de planches, de cordes, de pierres, d'accessoires et de châssis, de coulées de peinture et de formes géométriques. L'espace prend corps dans l'objet textuel par des poussées toponymiques et peut prendre même la forme de cartes cryptées, on l'a vu. Et si le texte est volontiers organisé sous la forme de tableaux, d'étapes ou de rosaces, l'aire de jeu est elle-même prise dans la logique d'un dispositif où les cadres et où les cartes se multiplient. En fait, on retrouve dans les textes le plaisir de la citation et de l'apparition de figures coutumières. On observe des parcours, des inscriptions et des empreintes sur le plateau. Alors, les dispositifs scéniques mettent ostensiblement en avant un univers graphique et plastique qui est fait vraiment de cadres, qui s'accumulent sur le plateau, qui en délimitent les frontières et les possibilités de jeu, soit par encombrement et saturation de l'espace, soit par le dessin de lignes de force autour desquelles organiser l'occupation du plateau par les acteurs. Avant de décrire un peu plus précisément la composition de l'aire de jeu, il me semble que les mises en scène signées par Valère sont aussi et peut-être avant toute chose une construction plastique. L'œuvre qui est présentée au public est une œuvre total. Il y a un côté un peu wagnérien, je trouve. Hein. Tu fais pas la musique, mais tu fais le texte, la mise en scène, le décor. Donc une partie reste pérenne, le texte, et une autre est périssable, c'est le décor. Tu disais qu'il n'y avait pas de conservation, justement, de la plupart des décors des mises en scène. Mais cependant, il existe une certaine pérennité quand même dans cet aspect périssable des décors, puisque des éléments sont repris d'une mise en scène à l'autre. Donc le continu se crée par la reprise d'accessoires, par exemple. Alors, en précisant un petit peu les choses sur le décor peint, il me semble que le décor peint chez Valère permet de prendre la mesure du rythme de l'écriture et des motifs aussi qui la parcourent. J'ai toujours été frappée, ça a été beaucoup dit aussi, par la minéralité de l'écriture. On a parlé de la présence du caillou, par exemple, du caillou emprunté au lac. Et on a dit aussi beaucoup qu'il y avait tout un lexique tellurique qui passait dans l'œuvre. Mais cette minéralité, elle est aussi scénique. Donc les pierres et une présence vraiment marquée de la nature sur le plateau. Et cet aspect tellurique, il est aussi dans le coup de brosse énergique au sol. Et il se dit aussi dans la façon dont l'espace, le décor, est strié. Là, on est en plein Deleuze, l'espace lisse, l'espace strié. Deleuze et Guattari disent « Le marquage d'un territoire est dimensionnel, mais ce n'est pas une mesure, c'est un rythme. » Alors, le décor peint laisse voir des zébrures, il est veiné comme le marbre, âpre comme la montagne savoyarde, avec sa topographie propre, ses reliefs, ses précipices, il est comme la montagne qu'on arpente. Le décor peint n'est jamais à plat dans l'esthétique novarinienne, il est au sol parfois, mais il se dresse souvent du sol vers les cintres, il ajoute des volumes et des verticales. Et je voudrais donc vous inviter à penser le décor novarinien non pas comme un amoncellement, mais plutôt comme une forme topographique, à le penser pour son expression paysagère. L'œuvre de Valère entretient un rapport privilégié à l'architecture et à la géométrie. Partout, des maisons, des cercles et des carrés, des quadratures, des spirales, des tourbillons. Ces éléments de langage se retrouvent littéralement projetés sur le plateau. Les décors peints, à la manière de Dubuffet, créent de véritables psychocytes, qui auraient presque tendance à faire disparaître la réalité physique du plateau, du moins les contours traditionnels de la scène. Parce que la cage de scène, elle n'est pas simplement habillée par les toiles, elle est absorbée par l'univers pictural. Elle est dévorée par la peinture. À quelques exceptions près, l'homme hors de lui, qui est dans une mise en scène plus dépouillée, la boîte noire s'efface sous le travail de modelage de l'espace scénique. Novarina, finalement, comme dans les sculptures déambulatoires de Dubuffet, construit des lieux dans le lieu. Il atomise la cage de scène pour la reproduire autrement, sous la forme de vignettes, en multipliant l'apparition de cadres dans le cadre, tableaux, maisons, cadres peints, cadres vides. Les figures parlantes, les acteurs, les corps évoluent non pas sur ou devant la peinture, mais au milieu de volumes complexes qui forment un espace mental, une architecture en mouvement, un monument éphémère, un cabinet logologique, dirait Dubuffet. Mais si la cage de scène voit ses lignes brisées par des diagonales ou des pans inclinés, le théâtre se réinvente partout à d'autres échelles et des paysages particuliers apparaissent. Des paysages qui viennent parfois d'ailleurs et qui sont de la main d'autres peintres. Alors, on va parler un tout petit peu de ce tableau, du voyageur français qui s'appelle Le Pays des Météores et que Valère utilise régulièrement dans ses mises en scène, si je ne me trompe pas, depuis la création de l'Espace furieux à la Comédie française. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit apparaître. C'est un tableau qui est conservé au Musée de l'Art Brut de Lausanne. Alors c'est trompeur, le diaporama, ça. Donc oui, ce sont des agrandissements qui apparaissent dans les mises en scène. Alors, la citation de ce tableau dans les mises en scène a pour effet de relier l'univers graphique de Valère à celui d'une esthétique, celle de l'art brut. ça t'inscrit dans une famille picturale, mais c'est, pour moi, ce n'est pas là l'essentiel du parti pris. Ce collage scénographique a surtout vocation à installer un micro-périmètre à l'intérieur du cadre de scène, un tableau dans le tableau. La représentation d'un morceau de paysage, du figuratif au milieu de l'abstraction. Et la mise en abîme du pays des météores dans le décor peint ouvre une perspective sur la nature. Elle creuse davantage l'espace scénique en installant un plan supplémentaire devant lequel les acteurs vont jouer. La citation agit comme une percée sur un ailleurs signifiant. Elle ouvre une tranchée perspective sur l'extérieur. Et là, le jeu citationnel passe également par une opération de détournement et de recomposition du tableau originel. Puisque dédoublé, il devient un paysage réversible et sissipare, à lire de la gauche vers la droite et inversement. Le pays des météores contient la scénographie novarinienne et se prolonge dans le décor peint. Vous pouvez voir dans la mise en scène du vrai sang comment les arbres du voyageur français se prolongent sur le tableau sur le décor peint de Valère. Je suis assez fascinée par cette image avec le... Oui, pardon, on voit peut-être pas très bien.
Oui, voilà, ça se prolonge de tous les côtés.
Je suis assez fascinée par cette photo de scène qui, avec cette sorte de bleu chartrain qui produit comme un éclat de vitrail. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Alors oui, donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est que finalement, le tableau du voyageur français est prolongé hors de son propre cadre par la peinture de Valère. Elle l'a fait déborder tout en la sacralisant. Alors là, on a une vue en diptyque, mais ce tableau finalement est démultipliable à l'infini par retournement, par exemple. Donc voilà, il y a des effets de reproduction par symétrie horizontale ou par renversement des axes. Ce qui veut bien dire que la gauche, la droite, le haut et le bas ne sont pas des repères fixes viables pour nos repérages, nos questions de repérage dans l'espace. Donc ce tableau, qui est révélé autrement par son retournement, où sa démultiplication devient un outil perspective, une profondeur de champ. Il agit sur le décor en fond de scène en proposant de nouvelles lectures de l'espace. Le tableau est littéralement déplacé de son cadre initial pour être reterritorialisé dans l'architecture scénique. Il n'est plus une citation picturale, il participe à la composition d'ensemble par ses divers réagencements. Il produit non plus un, mais des paysages à facettes. Alors, si la citation iconographique du voyageur français peut occuper une place centrale dans les dernières mises en scène, Valère produit aussi depuis plusieurs années des micro-environnements spatiaux dont la reprise assure de la continuité entre les différentes mises en scène. Alors, on va parler un tout petit peu des maisons qui sont particulièrement significatives dans l'effort de structuration de l'espace scénique. La maison semi-ouverte, sans porte ni fenêtre, et qui est déclinée en plusieurs variables, instaure dans le paysage pictural un périmètre de jeu restreint. Cadre dans le cadre de scène, mais dans lequel sont enchâssés là encore d'autres cadres picturaux, la maison reproduit l'espace du Guignol et du Castelet. Son architecture reste minimaliste, mais suffit à réinventer le monde du théâtre tout entier. Des photographies personnelles y sont parfois accrochées, comme on peut le faire chez soi. D'autres cadres restent vides, en attente d'être occupés par un corps, ou plutôt par la tête d'un acteur. Et en fonctionnant comme des miniatures, ces tableaux deviennent tout à coup vivants et proposent un espace autobiographique où faire ressurgir le souvenir d'enfance, la loterie Pierrot par exemple. Voilà. Redessiner et réinterpréter en maison constructiviste, donc la maison jaune, donc en citation esthétique finalement, ou en version simplifiée se résumant à un cadre, la maison ne constitue pas tant un lieu à habiter qu'un signe de surthéâtralité historique. Parce qu'en fait, la maison, Ça, je ne l'ai pas deviné toute seule. C'est quand je travaillais avec Valère, j'avais vu cette image. En fait, cette maison, c'est l'émanation de la guérite qu'on utilisait autrefois sur le plateau pour abriter le metteur en scène ou les acteurs. Donc là, en l'occurrence, c'est Mounet Sully et puis des critiques. Enfin, non, c'est... Oui, mais enfin, il a produit aussi beaucoup de critiques. Voilà. Et Dubout, auteur dramatique. Donc oui, voilà, j'y suis. Donc cette guérite, finalement, ou ces maisons dans les spectacles de Valère, on peut finalement les considérer comme le signe de la présence de l'auteur sur le plateau, comme ici, sur cette photographie. Elle fait office, si on veut, de cabine de régisseur. Et finalement, c'est là que s'organise la représentation, et c'est peut-être idéalement de ce point de vue qu'il faudrait regarder la représentation. C'est là qu'il faudrait observer le dispositif. Alors la théâtralité de cette micro-architecture réside aussi dans sa nature remaniable. À tout moment, la maison peut être retournée par les acteurs ou par les ouvriers du drame. L'envers du décor peut être dévoilé, parce que comme le tableau du voyageur français, elle est réversible et une réalité peut en contenir une seconde. La réduction minimaliste de la maison à un cadre renvoie une fois de plus à la peinture. Et ce cadre ne contient pas nécessairement de sujet propre quand il est évidé, il devient plutôt un point optique mobile sur le plateau et une zone polysémique, puisqu'il déplace le regard en même temps que le sens de ce qui est montré à l'intérieur. Il agit comme une force centrifuge ou centripète qui finit toujours par déplier l'espace sur autre chose que lui-même. Il est mis en perspective dans le tout de la représentation. En définissant une limite pour l'œil du spectateur et pour le corps de l'acteur, le cadre devient un seuil entre le visible et l'invisible. Il installe un rapport concurrentiel entre l'intérieur et l'extérieur. Il enferme ou il permet une sortie. Il opère une césure dans le rythme de l'espace scénique. Le cadre, parce qu'il constitue en soi un micro-périmètre de jeu, une zone de franchissement, une zone où crever le décor en traversant la peinture. Je pense vraiment à l'homme hors de lui où Pinon finit par traverser la peinture, sortir du cadre, sortir du plateau, est un moyen de mettre en danger l'acteur et de le faire exister en tant que sujet au centre de la composition. Le cadre novarinien n'est ni un format portrait, ni un format paysage, c'est un carré. C'est-à-dire un objet magique à la symétrie parfaite. On retrouve le fameux chiffre 4. Peut-être que les quatre sens de l'écriture, finalement, c'est peut-être symbolisé par ce carré. Et donc un objet magique à la symétrie parfaite qui marque aussi l'union des contraires et l'union des quatre points cardinaux. Sa présence rappelle le drame de l'espace et de l'acte théâtral en le miniaturisant. Drame du passage du champ au hors-champ, du plateau aux coulisses, drame du passage de la vie à la mort, du jour à la nuit, violence du saut, permettant de passer de l'un à l'autre de ces états. Strindberg disait dans la Sonate des Spectres « Oui, c'est compliqué aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, même si tout a l'air très simple. Voilà. » Alors, je voudrais parler maintenant des choses liées à l'arpentage et aux zigzags qui se produisent sur le plateau. L'architecture de la salle de théâtre, que le dispositif d'ailleurs soit à l'italienne ou en frontale, est construite pour orienter le regard en se conformant au grand principe de la perspective. Dans cet esprit, la scène fait office de foyer optique, comme le dit très souvent Valère. Et finalement, le métadiscours novarinien organise le lieu théâtral et les conditions d'énonciation de la parole. Il convoque l'espace réel du plateau en définissant de facto ses limites. Dans l'acte inconnu, créé à Avignon en 2007, on voit l'un des comédiens calibrer le périmètre de jeu à l'aide d'un octomètre. Dans l'acte 8 de la scène, Frégoli chante et mesure l'espace en courant. Mais cet arpentage de l'espace reste une topographie symbolique. Très souvent, la mesure est biaisée et fait du plateau un lieu plus ou moins extensible, un lieu accordéon dont l'étalonnage échappe au système traditionnel de quantification de l'espace. Puisque, par exemple, on lit dans la chair de l'homme que l'univers fait 13 mètres. Peu importe, au fond, que ces données chiffrées soient exactes ou fantasmatiques. L'important est dans l'effort de cartographie du stade d'action représenté par le plateau. L'important est dans la volonté de constituer un cadre à l'intérieur duquel mesurer la distance entre les corps. Mesurer la distance entre les corps parlants et les corps écoutants, les corps regardants. Un espace à l'intérieur duquel apprécier la portée de la parole, sa propension à se diffuser dans l'espace jusqu'à atteindre le public. La vitesse du langage et les arpentages continus du plateau par les acteurs deviennent les instruments de mesure de l'espace. Et regardez dans les différents textes ou dans les différentes mises en scène de Valère, vous y verrez des quantités de marcheurs, de promeneurs, de passants, de parcoureurs, d'arpenteurs. Peut-être finalement parce qu'il y a trop d'espace dans l'écriture de Valère. Et la nature que nous évoquions tout à l'heure avec le tableau du tableau du voyageur français tend à envahir l'œuvre. La montagne et les pierres sont présentes partout. Mais lisez là encore, lisez bien et regardez bien les textes et les mises en scène. Vous verrez aussi apparaître un grand nombre d'arbres et de plantes, des citronniers, des amandiers, des forêts, des jardins, des vergers, des rivières, des déserts, des oiseaux, un chien et bien d'autres animaux. La nature est présente partout. Et cette cosmographie utopique, qui n'est précisément nulle part et partout à la fois, embraye sur un imaginaire mythique et ontologique. Ces personnages qui courent en tous sens sur le plateau, en cherchant à établir la mesure du monde, ne sont-ils pas finalement en quête du jardin perdu, du jardin des délices ? La fiction théâtrale s'appuie sur des référents spatiaux et des proliférations taxinomiques, listes de plantes, de noms d'oiseaux, de rivières, qui font advenir sur scène, par le simple pouvoir de la nomination, la matière du monde. La scène, peuplée de signes, de trajectoires, de cadres, se territorialise. Sur le plateau, l'espace graphique organise au sol des lignes d'énergie, fendant le plateau, le divisant, le polarisant, le sectionnant. Une ligne de démarcation dans l'espace furieux, une marelle dans le vivier des noms, un backgammon façon Mondrian, dans l'acte inconnu. Les trajectoires des acteurs dans ces espaces deviennent par conséquent pariétales. Elles sont inscrites au sol par le geste du peintre et du scénographe. Elles sont conditionnées par des limites à franchir, par des forces antinomiques et des points de convergence autour desquels les acteurs pourront se dépenser athlétiquement tout en restant en posture d'équilibriste. On voit bien, par exemple, avec cette ligne de démarcation dans l'espace furieux, une ligne à franchir, une ligne sur laquelle marcher. L'espace scénique est donc un lieu de gymnastique rythmique, de percussion et de lutte entre le corps de l'acteur, le geste d'écriture du peintre et du scénographe. L'espace scénique est régi par des forces magnétiques, mettant en tension des points cardinaux aimantés. Et ces points produisent des effets d'attraction ou de répulsion, qui permettent de régler la circulation des corps sur le plateau et d'en préciser la carte. Alors, lire les textes à la boussole, voir surgir tout à coup une ligne, un point de fuite, observer le déplacement des limites, observer les déséquilibres du paysage scénique. J'ai beaucoup écrit et puis dit dans des colloques ou dans des publications que l'œuvre de Valère relève du palimpseste et de la stratification montagneuse, qu'elle grandit par dépôts sédimentaires successifs. Je le crois toujours, en regardant le feuilletage citationnel qui me donne le plaisir de la reconnaissance et le plaisir de la surprise d'une nouvelle variation. J'ai beaucoup dit aussi que finalement, l'œuvre était construite à la manière d'un rhizome, voilà, qui se démultiplie de façon organique, et qui se développe aussi à la manière d'un cours d'eau souterrain, tu en parlais comme l'onction, voilà, par exemple, qui creuse la roche sans qu'on le sache, et qui, à force d'une pression excédentaire, finit par produire une nouvelle coulée d'écriture. Un peu géologue, un peu archéologue, un peu jardinier littéraire, nous, les commentateurs de l'œuvre de Novarina. Nous grattons le terreau, nous soulevons des empilements pour observer des structures et saisir des liens entre la partie et le tout. En les commentant, nous changeons de posture, nous devenons cartographes. Nous faisons travailler l'espace textuel et scénique, nous apprenons à lire des territoires, à tracer des repères. Parce que le théâtre de Valère met en scène des paysages, des tableaux, des cadres, des cartes secrètes, des toponymes réels ou fabriqués, des arpentages et des trajectoires dans l'espace, il entretient un rapport privilégié à un certain mode de représentation du monde. Autrement dit, pour moi, le théâtre de Valère est un objet cartographique capable de combiner plusieurs niveaux de lecture. La page blanche et le plateau ne sont rien d'autre que des fonds de cartes bornés par des limites polarisées, du vide à investir par des signes. J'aime beaucoup cette carte vide de Lewis Carroll dans La chasse au snark, qui reproduit à la fois le vide de la page blanche, voilà, cette sorte de quête du Dahu, voilà, qu'on... Et puis ces repères qui n'en sont plus finalement autour de la carte. Comme la carte géographique, le texte et la scène produisent un cadre, un point de vue, une certaine lecture ou une certaine projection du monde. Ils sont eux aussi des supports sédimentaires, pliables et dépliables, dont on peut faire varier l'échelle à l'envi. La carte est un outil sélectif, elle opère par coupe dans l'espace, elle permet par un jeu savant de calque la confrontation et la comparaison de systèmes de données. Elle permet de choisir d'où l'on regarde le territoire. Tout comme je peux superposer sur le fond d'une carte d'un pays son relief, son réseau hygrométrique, la densité de sa population, etc., je peux ajouter à la matrice originelle du carnet vert ou de l'atelier volant, je peux ajouter par calque toutes les productions de Valère. Et en fait, finalement, je me suis dit que la carte, c'était un outil peut-être plus intéressant de description de l'œuvre de Valère plutôt que le palimpseste. Parce que le palimpseste, en fait, contient l'idée d'effacement et d'écrasement des couches. Voilà, c'est ça. Alors que la carte, finalement, procède par empilement sans effacer les couches précédentes. Voilà, par un jeu subtil de calque. Et Patrick l'avait cité hier, chez Héros et Limites, il existe une très belle édition de la Loterie Pierrot, justement qui procède avec un système de calque. L'inventaire de la Loterie Pierrot est divisé, les deux listes, liste de noms et liste de verbes d'action. Une des listes apparaît sur le calque et l'autre liste, sur une autre page. Et il faut superposer ces deux calques pour comprendre l'assemblage de la liste. Et au fond, il me semble que l'ensemble de l'écriture de Valère procède par empilement de calques qui laisse voir par transparence sans effacer, contrairement au palimpseste. Et puis la carte a cet intérêt aussi de rendre compte des reliefs, enfin voilà, d'empêcher l'écrasement. Alors du coup, que donne à voir tous ces calques et que donne à voir la carte une fois complète? Elle donne à voir, je pense, des axes stratégiques. Création de matrices subdivisées en adaptations diverses, construction en dramastation, goût pour le monologue. Elle donne à voir des nœuds thématiques, des pôles dramaturgiques constitués autour d'un motif récurrent, par exemple, les scènes des maisons, les scènes des repas, les scènes des machines à dire voici. Elle permet aussi d'identifier des territoires en cours de développement, des percées topographiques, surgissement d'une nouvelle formule qui va proliférer par variation. Elle permet d'identifier des territoires linguistiques, la novlangue, la langue de communication, les langues étrangères. Et elle permet aussi, la carte, de déterminer des zones autobiographiques, des zones intimes. La carte, finalement, est comme le théâtre, un outil optique. Elle parle d'espace en multipliant les signes métadiscursifs. Pour représenter un réel impossible à saisir dans sa globalité, elle n'a d'autre moyen que de se réaliser dans un objet graphique fait de stries, de couleurs, de limites, de coordonnées. Elle superpose, elle oppose, elle théâtralise le monde. Et finalement, pendant cette semaine passée ensemble à Cerisy, nous avons tous, chacun, soulevé l'un des calques de cette grande carte novarinienne. Et nous avons fait jouer ensemble, nous avons fait interagir ces différents calques. Nous avons produit des abstractions pour essayer de comprendre une réalité qui nous échappe un petit peu malgré tout. Car l'espace nous désespace. Et finalement, notre entreprise de triangulation menée cette semaine à Cerisy n'est encore que très partielle. Il reste beaucoup de blanc à combler. Vous savez que dans la cartographie, la carte a horreur du vide. Voilà, je vous remercie.
C'est très long de vous remercier.